L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette 42e chronique L'onde du bois, une chronique vraiment de rentrée, parce qu'on retrouve même notre bonne vieille habitude de se retrouver avec Lionel dans le studio de Mémac. Voilà, on a fait pas mal de balades ces derniers temps, puis là on avait envie de se poser un petit peu autour d'un texte préparé, et vous allez voir, c'est pas un petit texte que tu nous as préparé aujourd'hui pour cette rentrée au studio.
Oui, bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de se retrouver au Cuyo del País, dans ce beau bâtiment, voilà, retour au studio de Mémac. On revient un peu, ça fait du bien des fois de revenir un peu en salle. Voilà, on pose un peu les choses et justement, voilà, chronique sur une thématique sensible, mais dont les forestiers doivent s'emparer pour correctement se mettre d'accord. En fait, chaque jour, j'entends des questions, des remarques, des affirmations, des provocations même. Des réponses aussi, souvent délivrées par ceux-mêmes qui posent les questions. Et en fait, ces questions, c'est quoi une coupe rase ? De toute façon, Dixit, c'est personne qui pose ce genre de questions et qui ont des réponses eux-mêmes. De toute façon, si on plante, c'est pour couper plus tard. Ou aussi des remarques comme « là, je te fais une petite coupe rase », disent-ils en rigolant pour se rendre intéressant. Et finalement, ceux qui en rigolent finissent par s'en persuader, car l'argumentaire souvent n'est pas encore bien réfléchi. Également, dans l'argumentaire, on peut retrouver, et ça c'est souvent aussi de la part d'apprenants, j'ai en face de moi aussi des personnes qui sont en cours d'apprentissage et qui affirment que si c'est mûr, faut tout couper. Et puis de toute façon, ça donnera pas grand-chose de plus, donc à ras. Je peux me retrouver devant des petites informations comme ça. C'était aujourd'hui l'idée de discuter avec Raphaël et puis de vous faire profiter de cette discussion-là sur le sujet de la coupe rase.
Voilà, on a compris, c'est le sujet un peu sur la forêt, qui en tout cas, c'est vrai qu'il revient beaucoup, parce que c'est peut-être le plus visuel aussi. Quand on débarque un peu sur le territoire, si, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un truc qui frappe vraiment visuellement, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu d'ailleurs, c'est quoi vraiment une coupe rase ? Parce qu'on entend vraiment les deux noms, coupe rase, coupe à blanc, on ne sait pas trop est-ce qu'il y a une différence, est-ce que c'est des synonymes, et puis on ne sait pas trop est-ce que c'est toujours, est-ce que des fois il y a des raisons d'en faire, est-ce que c'est toujours quelque chose de nocif ou pas, est-ce qu'il y a des intérêts, est-ce que c'est lié à la forêt limousine, enfin voilà, il y a beaucoup de questions, on va essayer de débrouiller tout ça avec toi aujourd'hui.
Beaucoup de questions, avec chaque jour passé en forêt. Raphaël, de nouveaux éléments de réponse et de compréhension. Déjà, pour commencer, on peut faire un petit point historique qui nous permettra également de préciser la terminologie de l'expression coupe rase. Depuis l'invention de la hache, datant du Pléistocène supérieur entre 760 000 et 900 000 ans, jusqu'à nos jours, l'homme n'a cessé de se faire de la place sur Terre en défrichant. Le défrichement entraîne des coupes rases suivies de champs ou de construction modifiant la vocation du sol. Mais en forêt, et plus précisément en sylviculture, le statut forestier doit être préservé, même après une coupe rase ou une coupe à blanc.
Ah voilà, on a nos deux termes, tu vas enfin nous expliquer s'il y a une différence.
Et oui, tout simplement, en fait, car la coupe rase et la coupe à blanc ne sont pas du tout la même action. Une coupe rase n'aura lieu que sur une ou plusieurs parties d'un peuplement forestier en respectant ses limites parcellaires. Les forestiers opèrent souvent ces coupes rases dans un objectif de régénération, par bande ou par trouée. Les coupes à blanc, elles, sont complétées par le qualificatif d'étoque. Étoque, donc elles sont quant à elles réalisées sur l'ensemble du peuplement, ces coupes à blanc, et donc de la parcelle. Le mot étoque vient du vocabulaire un peu chevaleresque comme ça, d'estocade, qui est un coup de lance, d'épée ou de fleuret, donné brièvement et induisant un choc pour l'adversaire, visant finalement à le réduire à merci, à l'achever. étrange conception de la forêt d'ailleurs, quand on parle de coupe à blanc et toc. Le haut Moyen-Âge, les coupes à blanc et toc étaient monnaie courante dans les peuplements feuillus, d'abord primitifs, puis comme il s'agissait de feuillus et que leur reproduction est également asexuée, eh bien des souches rejaillissaient de nouveaux rejets, donnant ainsi d'immenses étendues de taillis qui, à chaque récolte, hein, tous les 10 à 15 ans, étaient à nouveau coupés à blanc. Parfois, des taillis étaient abandonnés ou cultivés en futaie sur souche. En fait, la coupe à blanc est une pratique séculaire, surtout sur les peuplements feuillus qui rejettent et forment des taillis. Par contre, sur les futaies, elle n'était pas du tout employée, d'autant qu'il n'existait pas de pépinière à l'époque pour assurer leur régénération par plantation. Jusqu'au XVIIIe siècle, les futaies étaient exclusivement régénérées par semi-naturel, autant dans le cas de la futaie régulière que pour la futaie irrégulière, il en va de soi. Ce mode d'estocade pour des personnes érudites, ou plutôt cette mode dans le cas de personnes incultes, s'est généralisé à l'ère de la révolution industrielle où les besoins en bois ont augmenté et de facto ont également fait augmenter la demande en plans forestiers. D'abord dans les landes de Gascogne, où les sols marécageux et podzoliques ne peuvent accueillir que le pin maritime, Pinus pinaster, puis ensuite sur notre plateau de mille vaches, des millions d'hectares de plants issus de graines et donc de futaies ont vu le jour sur des territoires à développer économiquement. Seulement ces arbres plantés, qui tenaient dans la petite main des écoliers, un petit clin d'œil à Émile Cardot en 1907, et qui ont donné des grandes futaies de résineux, ont subi rapidement le sort des taillis, les coupes à blanc. Pourquoi, me direz-vous ? Cela est un contresens biologique. Couper à blanc une futaie ? Eh bien, simplement pour permettre a priori une gestion simple et financière de la forêt la plus avantageuse à court ou moyen terme. Le long terme, dans ce cas-là, ne peut être cité, alors que paradoxalement, la gestion forestière durable implique le long terme.
Oui, alors là, du coup, on est sur des considérations techniques. Je pense que tu vas le développer par la suite. Mais il y a aussi une histoire de législation, parce que là, si la coupe blanc, elle n'a pas été longtemps pratiquée, et c'est aussi parce qu'elle est encadrée, non ?
Bien sûr, les coupes sont encadrées au niveau de la loi, hein, les coupes rases et les coupes à blanc également. Donc si on se réfère au code forestier nouveau, que vous pouvez d'ailleurs toutes et tous consulter librement sur legifrance.gouv.fr, donc ce que dit le code forestier, c'est que chaque coupe doit être licite, donc doit respecter la loi, notamment via l'article L312.11. Donc une coupe est dite illicite si elle est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts, tels que définis par des schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers. Également l'article L124.5 qui dit que dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable, les coupes d'un seul tenant, supérieur ou égal à un seuil fixé par le représentant de l'État dans le département, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisé au titre d'une autre disposition du présent code de l'article L131, c'est chaud, du code de l'urbanisme, eh bien ces coupes-là ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'État dans le département après avis du Centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées. Dans tous les cas, la rédaction d'un document de gestion durable, donc PSG, règlement type de gestion ou CBPS, doit être rédigée et agréée par la DDT qui, une fois validée, connaît des coupes qui sont déclarées et pour lesquelles il n'y a plus vraiment de formalité à présenter. Alors il y a aussi un autre article, donc c'est l'article R163.1 qui est donc que dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'ont pas 20 cm de tour, qu'ils aient été plantés ou non depuis moins de 10 ans, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ainsi que de la chose qui en est le produit.
Ça rigole pas.
Ça rigole pas. Mais il faut aller voir, Légifrance, c'est bien le code forestier, il est vraiment accessible par tous, même les forestiers doivent, nul n'est censé ignorer la loi, donc c'est bien d'aller faire un petit saut gratuitement.
Alors là, tu parles de la taille, de coup, des, la taille minimale ouais. des fûts, notamment. Moi, je me souviens quand on s'était baladé sur le Mont Bessou, oui. On avait parlé aussi des surfaces. Et il y avait des seuils à pas dépasser, je crois, pour une coupe, c'est ça ?
Exactement. Ouais. Alors j'ai recherché dans le. Alors d'abord, on dit, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, que c'était dans les schémas régionaux de gestion sylvicole que chaque région, chaque département se voit imposer un seuil. En fait, bon, bah, j'ai recherché dans le schéma régional de gestion sylvicole sur la Nouvelle-Aquitaine, donc Limousin plus précisément, qui d'après la loi les fixe en Corrèze. Hein, donc les SRGS, on peut également les consulter librement sur le site du CNPF, hein, Nouvelle-Aquitaine. Et alors à l'intérieur, en fait, on apprend que dans certains cas, il peut y avoir nécessité d'une gestion spécifique de peuplement forestier pour limiter au maximum la mise à nu du sol. Hein, déjà, cet objectif est en général subordonné à d'autres objectifs comme la limitation des inondations ou la qualité de l'eau. Donc l'idée, c'est de limiter la surface de la mise à nu du sol. Également, il est souhaitable d'effectuer une coupe rase soignée. Alors quand on parle de coupe rase, donc c'est dans le schéma régional de gestion sylvicole, la coupe rase est abordée. Et donc elle est abordée dans le cas de du renouvellement d'un peuplement. Ils disent donc qu'il faut que cette coupe rase soit soignée afin de pouvoir circuler ensuite avec un gyrobroyeur porté par un tracteur sans travaux de nettoiement complémentaires. Mais au final, dans les SRGS, on n'y trouvera pas de surface. Il faut en fait revenir dans le code forestier à l'article 124.5 pour trouver l'info du seuil maximal de 4 hectares sur des parcelles d'un seul tenant. Hein. Je cite également ici le GIP Ecofor dans sa conclusion sur son étude commandée par l'État en 2023 sur les coupes rases, hein, et qui dit que d'un point de vue écologique, l'analyse des critères microclimatiques et biochimiques ne permet pas de proposer un seuil précis de surface de coupe rase, en deçà duquel il n'y aurait pas de perturbation notable du fonctionnement. Mais en fait, que les niveaux évoqués semblent nettement en deçà du seuil de 0,5 hectares généralement retenu en sylviculture. Et que cela permet aux propriétaires de s'affranchir de toute démarche. Au final, la seule obligation réglementaire claire concerne l'obligation de reboisement. Donc cette disposition oblige le sylviculteur à reboiser dans les 5 ans suivant la coupe rase ou l'exploitation d'une surface supérieure à un seuil fixé par le préfet de département. Le GIP Ecofor rappelle que plusieurs voies sont d'ores et déjà mises en œuvre pour diminuer le recours aux coupes rases. Ainsi, la réduction du seuil surfacique pour les coupes rases est envisagée à l'occasion de la révision des schémas régionaux de gestion sylvicole. Donc ça, c'est wait and see, on verra. Retenez simplement qu'en Corrèze, on est à 4 hectares en surface. En gros, ça va de 0,5 à 4 hectares.
Bon, au final, c'est quand même visuellement, je reviens là-dessus, assez choquant de voir disparaître des bouts de forêt dans le paysage. Et puis d'ailleurs, je me demande même, est-ce que, selon toi, on peut encore appeler ça des forêts ?
Alors ça, Raphaël, plus vraiment. Hein. C'est vrai que ces andins et ces souches sont pas hyper fun pour se promener en forêt, hein, sans parler de tous les impacts directs et indirects liés à la répétition de ces coupes rases sur les mêmes parcelles. Ça, on n'en parle pas assez, mais l'idée, hein, c'est de penser quand même à l'impact que ces coupes rases et que la répétition de ces coupes rases sur un même sol, sur une même parcelle, eh bien, au niveau du sol, entraîne l'érosion, la lessivation des éléments organiques et également minéraux. En fait, tout est bien présenté dans le document d'expertise mené par Ecofor et Aforce au sujet des coupes rases et du renouvellement des peuplements forestiers en contexte de changement climatique. Hein, ce dossier-là, vraiment, je vous recommande vivement la lecture. D'ailleurs, je mettrai le lien sur la description de la chronique d'aujourd'hui. Voilà, on s'approche de la conclusion, et en conclusion, pour ceux qui diront encore que ces arbres plantés doivent être récoltés et que la forêt installée par l'homme doit être faite pour l'homme, eh bien on peut leur répondre après tout qu'ils n'ont qu'une partie de la réponse. En effet, les arbres plantés seront un jour récoltés par les hommes, mais en regardant vers le passé pour savoir où se tourner vers le futur, et sans non plus vivre avec des fantômes, il faut se rappeler des principaux arguments des forestiers qui nous ont précédés, tels Marius Vazey et Émile Cardot, pour inciter à l'époque les ministres de l'Agriculture, c'était Joseph Ruault à l'époque, d'investir massivement pour boiser notre plateau. À savoir, en fait, cet argument était de nécessairement éviter les glissements de terrain et les coulées de boue en plantant des arbres, en implantant des forêts sur des pentes pour fixer les sols. Et ça a marché d'installer de la forêt sur ces pentes. Alors pourquoi aujourd'hui remettre à nu ces pentes? Pourquoi ne penser qu'à rentabiliser nos choix de vie individuels et éphémères? Comme je l'ai entendu dans un discours, ensemble, n'irons-nous pas plus loin? La forêt est maintenant là, vaste. Profitons d'elle pour la pérenniser. Travaillons avec elle pour la prélever, l'arpenter, la goûter aussi, la contempler, toujours là, et nous élever avec elle dans le même temps. Je citerai enfin mon ami poète Antonella Fiori pour revenir sur ce qui guide nos actions en définitive. Dans son dernier ouvrage « Espèces reliques », que je vous invite à lire absolument, voilà ce qu'elle écrit. C'est court, c'est intense, mais c'est beau. Aucun guide ne peut nous donner l'adresse de la liberté. Elle est en nous ou nulle part.
Ben voilà, c'est une belle conclusion. Et puis, ben, pas vraiment une conclusion, parce qu'on retrouve le studio, on retrouve aussi les bonnes habitudes de l'onde du bois. On va se quitter, comme d'habitude, en musique.
Voilà, on s'écoute Wild Thyme de Wyeth Blood.
C'est parti.